carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowania.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. À 5 semaines des élections européennes, le débat s'intensifie. L'Europe a-t-elle encore un avenir? Faut-il plus ou moins d'Europe? L'Europe est-elle encore une grande idée alors que les Européens se connaissent si peu et partagent une histoire parfois si différente? Dans cette Europe en crise, aux institutions en panne, le sursaut ne peut venir que des citoyens européens. C'est le point commun qui lie nos 3 invités, 3 auteurs qui ont eu envie de partager leur désir d'Europe, désir qui ne va pas sans critique, bien sûr. Mais si l'Europe n'est pas très populaire en ce moment, elle reste une réalité incontournable. Dans la deuxième partie de l'émission, nous serons en compagnie de Philippe Perchaud, Guillaume Clossat et Michel Dévoluy. Que peut faire l'Europe face à la détermination de Vladimir Poutine en Ukraine? À partir du moment, bien sûr, où personne ne veut mourir pour Kiev, prendre des sanctions contre les oligarques russes, isoler diplomatiquement la Russie ou encore réduire les achats de gaz et de pétrole, mais après. Nous entendrons Yves Bertoncini, le directeur du Centre de réflexion Notre Europe. Difficile début de campagne européenne pour David Cameron en Grande-Bretagne, avec Nigel Farage, le leader du parti indépendantiste UKIP, toujours en embuscade. Le buzz de Marie Afonso dans un instant. Enfin, avec Jerry Philly et la rédaction de Courrier International, nous ferons un détour par l'Écosse. L'Écosse qui se verrait bien indépendante du Royaume-Uni. Bonjour Anand Saïdani.
Bonjour Daniel.
Pour votre semaine européenne et toujours subjective, vous vous êtes attardé sur les bancs du Parlement européen. Les élections européennes, je l'ai déjà dit, c'est dans 5 semaines. Et cette semaine, justement, s'est déroulée la dernière séance plénière du Parlement, celui qui a été élu en 2009. Et pour l'occasion, même les grands absents de l'Assemblée, que sont par exemple Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils étaient présents.
Et les députés en ont profité pour voter les mesures les plus débattues de leur mandature. Tour d'horizon des textes phares adoptés lors de cette session.
Et d'abord, une directive qui impose le droit à un compte bancaire pour tous, ça paraissait évident, mais tout le monde ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire en Europe.
Cette directive, votée par une large majorité à Strasbourg, changera la vie de près de 58 millions de citoyens qui, jusqu'à présent, ne disposent toujours pas de compte bancaire. Certains pays, surtout en Europe de l'Est, interdisent l'ouverture de compte bancaire pour des raisons financières ou de nationalité. Ou encore, si vous n'avez pas de domicile fixe, vous ne pourrez pas non plus ouvrir de compte. Par exemple, il est difficile pour un citoyen roumain d'ouvrir un compte bancaire en Bulgarie et vice-versa. Roms, étudiants ou travailleurs immigrés sont exclus du système bancaire. Résultat, dans ces 2 pays, la Roumanie et la Bulgarie, près de la moitié de la population ne possède pas de compte.
Mais ce texte va un peu plus loin, il instaure aussi une série de protections pour le consommateur.
En effet, la directive européenne prévoit une information identique et claire pour tous les Européens qui souhaiteraient ouvrir un compte bancaire de base. Les banques devront aussi faciliter la comparaison avec les offres concurrentes. Et ce n'est pas tout. Désormais, les banques devront appliquer des prix raisonnables pour tout changement de domiciliation de compte. En somme, plus de mobilité bancaire en Europe. Europe à 28 oblige, la mesure n'entrera en vigueur qu'en 2016, le temps pour les États de transposer la loi dans leur législation.
Ce qui vous laisse le temps de choisir la banque à laquelle vous confierez vos économies. Autre nouvelle qui concerne les travailleurs détachés européens, qui sont donc salariés dans un autre pays que le leur, les mesures de contrôle seront renforcées.
Oui, il s'agit bien d'un renforcement et non d'une nouvelle directive. Les États membres se voient maintenant dotés de plus de moyens pour lutter contre les fraudes et le dumping social généré par l'emploi de travailleurs détachés. Pour mieux comprendre ce qu'est un travailleur détaché, prenons l'exemple du célèbre plombier polonais. Ce dernier vient travailler en France, il bénéficie des droits sociaux et des conditions d'emploi et de rémunération du pays d'accueil. Mais les cotisations sociales sont celles de son pays d'origine, donc une économie pour les entreprises hôtes.
Alors qu'instaure de nouveau cette directive, puisqu'une loi encadrant les travailleurs détachés existait depuis 1996.
Désormais, les États membres pourront décider à leur guise du nombre et de la nature des documents à exiger de l'entreprise pour contrôler la situation des salariés détachés. Mesure de première importance pour la France et l'Allemagne, qui sont les premiers pays d'accueil pour les travailleurs détachés et qui ont bien sûr soutenu l'adoption du texte. Donc une décision qui va vers une meilleure répression des fraudes sociales.
Et enfin, une directive qui concerne la sécurité et l'information des consommateurs européens.
Oui, désormais, l'étiquetage du pays d'origine de fabrication devrait être obligatoire pour presque tous les produits manufacturés vendus sur le marché intérieur de l'Union européenne. Le but de la manœuvre, les consommateurs européens devraient ainsi savoir s'ils achètent « Made in China » ou « Made in Europe ».
Il faut encore bien sûr que le Conseil européen, c'est-à-dire l'ensemble des chefs d'État et des gouvernements européens, adopte ce projet. Et en tout cas, à 5 semaines des élections européennes, des mesures qui prouvent si besoin était que l'Europe s'intéresse aux Européens et qu'il est utile d'aller voter. Merci Anan.
De l'Europe.
Que peut faire l'Europe face à la détermination de Vladimir Poutine en Ukraine, à partir du moment bien sûr où personne ne veut mourir pour Kiev ou Donetsk? Prendre des sanctions contre les oligarques russes, isoler diplomatiquement la Russie ou encore réduire les achats de gaz et de pétrole, mais après. En Ukraine, la situation est fluctuante, à 2 doigts de la guerre civile un jour, légèrement apaisée le lendemain, encore plus incertaine le surlendemain. Alors, que pourraient faire les Européens si la tension en Ukraine montait encore d'un cran? Réponse tout en nuances d'Yves Bertoncini, il est le directeur du centre de réflexion Notre Europe.
Depuis le début de la crise en Ukraine, les Européens ont été unis, ils ont quand même été unis dans le refus de ce qui se passait, notamment en Crimée, unis dans l'adoption de sanctions, notamment sanctions politiques, sanctions financières. Mais il est vrai qu'on pouvait se demander ce qui se passerait si il avait fallu aller plus loin dans les sanctions, et notamment les sanctions économiques, voire même la riposte militaire. Ce qu'on constate à ce stade, c'est qu'a priori, les sanctions des Européens, leur message de fermeté, ont été en partie efficaces. Il faut évidemment aussi considérer l'apport décisif des États-Unis et même de l'OTAN.
Est-ce que c'est pas plutôt le fait que du côté russe, on s'est rendu compte que à pousser entre guillemets le bouchon un peu trop loin, la Russie risquait de perdre beaucoup plus qu'elle n'était susceptible d'en gagner. C'est-à-dire finalement que la stratégie russe a été de jouer la prudence plutôt que de la peur des Européens, voire des Américains.
Il est vrai que la Russie s'est à la fois que les Européens étaient unis sur l'essentiel, mais qu'ils auraient été sans doute un peu plus désunis au moment de sanctionner plus durement la Russie. Mais la Russie sait aussi qu'en réalité, entre l'Union Européenne et elle-même, il y a une interdépendance. La dépendance énergétique, par exemple, des Européens vis-à-vis de la Russie, qui ferait hésiter des Européens à aller plus loin dans l'escalade. Il y a des Européens qui sont très dépendants du gaz russe. Eh bien, c'est aussi une dépendance de la Russie vis-à-vis de l'Union européenne, parce que si jamais les Européens s'avisaient de redéployer leur approvisionnement énergétique, la Russie en pâtirait.
Alors que pouvaient faire réellement les Européens, et que peuvent faire les Européens si la situation se dégrade de nouveau? Bon, elle peut évidemment interdire quelques oligarques russes de visa, elle peut éliminer la Russie du G8 qui redeviendrait un G7, mais lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions commerciales, ça devient plus difficile, car la Russie est évidemment un grand client des produits européens.
Il est vrai que les sanctions commerciales affecteraient les deux parties, parce que la Russie a besoin de l'Europe, c'est son débouché principal, mais elle toucherait aussi beaucoup certains pays de l'Union européenne, d'où la désunion qui aurait pu intervenir ou qui pourrait intervenir.
Par exemple l'Allemagne, qui est évidemment un grand exportateur.
Si on regarde d'un point de vue commercial plus largement, effectivement, l'Allemagne est de très loin le premier partenaire commercial de la Russie et elle aurait à perdre à une escalade commerciale de sanctions économiques et commerciales vis-à-vis de la Russie. Je dirais que ce qui sauve l'Union européenne, c'est aussi que la Russie a beaucoup à perdre à une telle escalade. Parce que la Russie, sous ses airs poutiniens de matador, est quand même un pays qui n'est pas une grande puissance économique et qui souffrirait d'une guerre commerciale avec son principal partenaire, qui est l'Union européenne.
Alors si l'Union européenne, par contre, voulait sanctionner financièrement la Russie, c'est du côté de Londres et de la City que l'on se rebellerait immédiatement.
Il est vrai qu'il y a plusieurs fractures du point de vue, j'allais dire, très factuel. Les pays de type Pays-Baltes qui sont très dépendants énergétiquement, les pays qui sont très liés commercialement à la Russie, ça c'est l'exemple de l'Allemagne, et puis des pays qui sont très liés financièrement, vous avez cité la City de Londres, on pourrait même ajouter une quatrième ligne de fracture. Il y a des pays qui ont beaucoup de russophones sur leur sol, mais ça, on revient plutôt aux Pays-Baltes. Et donc, c'est vrai que tous ces pays qui ont été unis jusqu'ici dans la fermeté, ils refusent ce qui se passe en Crimée, ils refusent ce qui se passe en Ukraine. On peut leur reprocher un déficit d'efficacité pour empêcher que cela ne se passe, mais c'est pas un déficit d'unité. tous ces pays seraient peut-être beaucoup plus mal à l'aise pour aller beaucoup plus loin dans les sanctions économiques, commerciales, voire évidemment militaires contre la Russie.
Et puis, lorsque les Européens regardent la Russie, il y a évidemment des pays qui sont voisins de la Russie et ceux-là sont plus directement concernés que les autres. On peut parler évidemment des pays de la péninsule ibérique pour qui la Russie c'est très très loin, ce qui est évidemment pas le cas des pays baltes par exemple. Et là, évidemment, il peut y avoir des différences d'appréciation.
Oui, il y a même, à mon avis, une ligne de fracture selon qu'on ait peur ou pas de la Russie et de ce qui se passe en Ukraine. Les pays limitrophes, les pays baltes, la Pologne, peuvent avoir peur d'une agression militaire russe, alors qu'effectivement, les pays de la péninsule ibérique n'en ont pas peur. Il y a des pays qui ont peur d'autre chose. Les Bulgares, ils ont peur qu'on leur coupe le gaz russe. Donc, c'est pas la même peur. Et encore une fois, des pays comme la France qui n'ont pas réellement peur. Et ça, c'est la vraie ligne de fracture sous-jacente dans cette crise entre l'Union européenne et la Russie, qui pourrait effectivement exploser à notre figure si toutefois il était nécessaire d'aller plus loin dans les sanctions commerciales vis-à-vis de la Russie, voire même dans les ripostes de type militaire.
En tout cas, il y a un point commun entre tous les Européens, me semble-t-il, c'est que personne n'a envie de mourir pour Kiev.
Mourir pour Donetsk, comme on disait jadis, mourir pour Danzig, même si comparaison n'est pas raison à autant de distance historique. En effet, l'usage de la force, ça c'est aussi quelque chose qui peut faire peur aux Européens. La construction européenne a été faite justement pour bannir l'usage de la force, pour promouvoir le règlement pacifique des différends. C'est pour ça que les Européens sont si attachés à régler pacifiquement cette crise avec la Russie et l'Ukraine.
C'était Yves Bertoncini, le directeur du Centre de réflexion Notre Europe Institut Jacques Delors.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Bonjour Marie-Afonso.
Bonjour Daniel.
Désaveux, accusations, capitulations, la campagne des élections européennes au Royaume-Uni vibre au rythme des révélations. David Cameron et son parti sont affaiblis, par exemple, par la démission de Maria Miller, la ministre de la Culture.
Elle a quitté le gouvernement après le scandale autour de ses indemnités parlementaires. Une partie de celles-ci aurait servi à payer une résidence secondaire dans laquelle elle a installé ses parents. Une enquête indépendante avait conclu en février dernier que Maria Miller devait rembourser 55 000 euros. C'est sûrement sous la pression populaire que le Premier ministre, David Cameron, a accepté son départ du gouvernement. En effet, 180 000 Britanniques ont signé une pétition en demandant le départ de la ministre de la Culture. Celle-ci avait pourtant reconnu ses torts devant la Chambre des communes.
Le comité a demandé que je présente des excuses pour mon attitude. Et bien sûr, je le fais sans réserve. J'accepte pleinement les recommandations du comité et je le remercie pour avoir mis fin à cette affaire.
Des excuses jugées un peu trop brutes de décoffrage.
Elles devaient calmer le jeu, mais elles ont rajouté de l'huile sur le feu. Et l'affaire, à moins d'un mois des élections européennes, est devenue embarrassante pour le Premier ministre. La fureur des électeurs contre Maria Miller a été un cadeau pour Nigel Farage, le leader de l'UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Il a su l'exploiter politiquement. Mais, ironie du sort, lui-même est à son tour accusé d'avoir obtenu abusivement des indemnités parlementaires versées par l'Union européenne pour un montant de 72 000 euros. S'il nie avoir perçu illégalement ces sommes, lui qui s'acharne en permanence sur l'Union européenne, affirme que les eurodéputés n'ont pas à justifier l'utilisation des indemnités perçues. Et Nigel Farage a depuis longtemps une idée très précise de son rôle de député européen.
Yes, I am paid by the European Parliament.
Et oui, je suis payé par le Parlement européen. Parce que mon action, tout comme le Parti national d'Écosse le fait, tout comme le Parti national irlandais l'a fait, utilise cet argent pour exposer ce gaspillage, cette fraude de la part de nos pays et des représentants des gouvernements. Et le plus tôt j'aurai l'opportunité de scier la branche sur laquelle je suis assis, le mieux ce sera.
Alors en fait, Maria, à combien s'élèvent les indemnités d'un député européen ?
Depuis 2009, tous les eurodéputés de l'Union européenne touchent la même rémunération, soit 6 200 euros net, plus 4 300 euros par mois pour les frais de bureau, de communication, d'équipement, etc., et 4 200 euros par an pour leurs frais de transport.
En tout cas, une fois de plus, Nigel Farage s'est donné comme mission de faire sortir son pays de l'Union européenne.
Et de la combattre de l'intérieur. Il pourrait arriver en tête des élections européennes au Royaume-Uni. En France, il a conclu une alliance avec Debout la République. Il est d'ailleurs venu soutenir Nicolas Dupont-Aignan lors du lancement de sa campagne « Ni système, ni extrême ».
Retrouvez toutes ces vidéos sur la page de l'émission RFI.fr.
Sur Facebook, RFI Carrefour de l'Europe.
Et bien sûr sur le blog L'Atelier des médias, la web émission participative de RFI.
Le regard de Courrier International.
Bonjour Jerry Philly.
Bonjour.
À la une de Courrier International cette semaine, un grand dossier d'une dizaine de pages, Le Monde selon Poutine, où vous expliquez que le président russe impose sa loi un peu partout, en Ukraine bien sûr, mais aussi à l'ONU. Alors cela dit, Jerry, vous avez préféré nous emmener du côté de l'Écosse, où l'idée de l'indépendance par rapport au Royaume-Uni progresse, même si cette idée n'est pas encore majoritaire.
Pas tout à fait majoritaire, mais la campagne pour le oui, pour l'indépendance écossaise, on pourrait dire que c'est en plein essor. Selon un dernier sondage publié il y a 10 jours, ça a fait la une de toute la presse britannique, c'est les partisans du oui maintenant sont à 47% contre 53% pour le non. Il faut rappeler qu'il y a un an, les partisans pour le non, ceux qui ne veulent pas l'indépendance écossaise, étaient à 77%. Donc effectivement, ça a créé beaucoup d'émoi, non seulement dans les couloirs de Westminster à Londres, mais aussi dans la presse britannique qui s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette espèce d'élan indépendantiste en Écosse en ce moment? Il y a donc trois éléments qui sont à considérer. D'abord, c'est la campagne, on dirait, extrêmement négative menée par le gouvernement conservateur britannique. Il faut dire que quand même, il y a très peu de députés conservateurs en Écosse. Le Parti conservateur n'est pas très populaire en Écosse parce qu'il y a une espèce de souvenir, une espèce de mémoire des années Thatcher très amère contre la Dame de Fer en Écosse qui était considérée être coupable de toutes les maux dans la société écossaise, la désindustrialisation et aussi l'immense pauvreté dans les grandes villes comme Glasgow des années 70 et des années 80. Donc, et là, en février, nous avons eu droit à George Osborne qui s'est pointé donc à Édimbourg pour expliquer...
Le ministre de l'économie?
Le ministre de l'économie britannique. Pour expliquer aux Écossais que bon bah si vous voulez être indépendant, si vous voulez être libre, vous allez pas pouvoir utiliser comme devise, comme monnaie la livre sterling. Donc ça c'est la première menace. Deuxième menace a été fait par José Manuel Barroso qui a expliqué aux Écossais l'indépendance pourquoi pas, mais il sera quasiment impossible de adhérer. Rejoindre l'Union européenne. Les indépendantistes étaient extrêmement furieux contre Barroso pour cette intervention parce que
ça les a plutôt radicalisés, hein.
Exactement. Il faut quand même dire que les Écossais, c'est un peuple très fier. Ils partagent un peu le fighting spirit autant avec les Irlandais. Donc, il y a eu une espèce d'effet assez contre-productif. Et on a vu encore une autre idée. Et ça, c'est là où je vous rejoins au moment de votre introduction. Il y a des ministres qui disent qu'une indépendance écossaise est une menace pour la sécurité mondiale. C'est une espèce d'effet Ukraine. Et effectivement, donc, il y a plusieurs Écossais qui commence à dire zut, les Anglais nous embêtent, les Anglais sont du sud sont en train de nous faire des leçons. Donc effectivement, la vague indépendantiste est en train de se déferler, on dirait.
Et cette campagne indépendantiste, elle est évidemment menée par un premier ministre écossais très dynamique qui s'appelle Alex Salmond. Et on peut rappeler, Jerry, que ce référendum, il est déjà programmé pour le mois de septembre de cette année. Donc, on est vraiment presque dans la dernière ligne droite de la campagne pour l'indépendance.
On est tout à fait.
C'est évidemment un article à lire dans le dernier numéro de Courrier International. Merci, Jerry. On peut l'aimer ou pas, la critiquer vertement ou l'aduler, l'Europe, même si elle est impopulaire en ce moment, reste une réalité incontournable. Et seuls les citoyens peuvent la réveiller. Dans 3 minutes après les infos sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, nous serons en compagnie de Philippe Perchoc, Guillaume Clossa et Michel Dévoluy. Tous trois ont écrit un livre sur l'Europe, plutôt teinté d'espoir. À tout de suite.